2 millions de mots dans le script, 7 ans de développement et déjà 1 million de ventes. Voici les statistiques hors normes de Kingdom Come Deliverance 2, le nouveau jeu vidéo de Warhorse Studio. Disponible en préachat depuis mardi, le deuxième opus de roleplay iconique ne doit sortir officiellement que mercredi prochain, mais rencontre déjà un franc succès. Zoom avec Antonin Patarin sur les premières réactions des joueurs.
On l'attendait depuis 7 ans, le voilà enfin disponible. Kingdom Come Deliverance 2 est le nouveau roleplay de 2025 et il nous plonge tout droit dans un univers médiévalisé inspiré de l'Europe centrale. Quand je parle ici de roleplay, je parle d'un jeu à la première personne, ou plus communément appelé un jeu dont on est le héros. Dans ce jeu, nous incarnons Henri, fils de forgeron, qui après la mort de sa famille dans le premier jeu, se fraye un chemin à travers un monde médiéval assez sombre, mélangeant alliance, complot et trahison.
Et du coup, Antonin, qu'est-ce qui fait la particularité de ce deuxième opus et la si grande renommée une semaine avant sa sortie officielle ?
Eh bien, il y a deux raisons principales à ce succès tonitruant. Le premier, c'est l'ambiance. Les développeurs du jeu ne se sont pas employés à créer un monde fantastique très vaste, très détaillé et haut en couleurs, mais ils se sont concentrés pour faire de leur jeu un produit réaliste et agréable à prendre en main. Les décors, les personnages, les dialogues, tous sont pensés dans la même optique, offrir aux joueurs une expérience unique et une véritable immersion de jeu. Ryan, joueur de jeux vidéo expérimenté et grand joueur du premier opus, nous en parle.
Dire qu'en fait, on commence le jeu, l'histoire, elle est vraiment extrêmement dynamique. On est emporté, il n'y a vraiment pas de temps d'attente. Les histoires, les cinématiques sont très bien faites, un peu longues, mais voilà, moi qui aime bien ça, franchement, ça ne me dérange pas du tout. Donc le jeu, on est là, dynamique, ambiancé, des bonnes musiques, des bonnes choses. Vraiment un gameplay très rapide.
Cela se sent dans le jeu en lui-même avec un certain souci du détail, mais aussi dans les cinématiques qui sont toutes très travaillées. La deuxième raison, ce sont les changements qui ont été apportés au système de combat, un aspect assez décrié dans le premier. Le jeu apporte de nouvelles perspectives, de nouveaux angles et permet une expérience plus optimale, même si celle-ci reste encore assez limitée.
Est-ce que le fait qu'il soit très attendu a aussi joué sur ça ?
Oui, c'est un des facteurs dont j'ai pas forcément parlé, mais la hype autour du projet était totale et cela a ramené beaucoup de joueurs. Le jeu est assez niche puisqu'il sort des sentiers battus, et puis c'est pas une grosse licence qu'il a produit, le style graphique ne plaît pas à tout le monde, mais Warhorse Studio a quand même réussi à faire les choses bien pour tenir les joueurs en haleine.
J'étais complètement hype par la sortie du jeu. Le 1 n'a pas fait un immense bruit, mais après c'est normal. C'est un type de jeu qui est très, très précis, très réaliste, très médiéval. Donc il attire pas forcément le regard de tous, à contrario d'autres grosses licences. Mais moi qui suis un grand puriste de médiéval et de réalisme, le 1 déjà m'avait énormément hypé quand il est sorti. Le 2 du coup j'attendais. Surtout que pour ceux qui ont fait le 1, à la fin on a un twist qui fait que on a la frustration et l'envie d'avoir le 2 qui arrive.
À la fois par le plot twist à la fin du 1, mais aussi par le trailer dynamique et plein de promesses, Kingdom Come Deliverance 2 avait déjà son public avant l'heure.
Est-ce que du coup on est sur un jeu où il n'y a rien à redire ?
On aurait pu, mais il y a quelques pépins. Tout d'abord, le début du jeu. Comme on l'a dit, le jeu est dynamique, fluide, immersif, mais à la fin du prologue, ça coince un peu. On se retrouve tout seul, sans aucun réel guide, avec pour seuls alliés une quête principale et deux quêtes secondaires assez peu expliquées. De quoi laisser le joueur assez perplexe. Il y a aussi quelques mécaniques au fur et à mesure du jeu qui vont à contre-réalisme et qui gâchent un peu l'expérience. Mais c'est pas de quoi en faire un échec.
Place maintenant à un vrai jeu de rôle. Fini les cartes graphiques, les souris et les claviers. Bienvenue aux dés, aux cartes et aux figurines en plastique. Le célèbre Stream Game of Role, réunissant à chaque fois plusieurs streamers autour d'une partie de jeu de rôle, pourrait prendre fin. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Mister MV, hébergeur du stream, avant de lancer une cagnotte Ulule.
9 saisons de stream et des dizaines d'heures de parties qui pourraient voir leur fin très prochainement, voici ce que Mister MV et Fibre Tigre, créateurs du concept, avaient annoncé avant de créer une cagnotte en ligne. Le problème auquel faisait face Game of Role, c'est le manque de moyens pour faire vivre le stream. Certes, il y a des opérations spéciales pour les collaborations avec les marques, pour faire connaître leur contenu, mais ces opérations spéciales se suffisent à elles-mêmes. Elles ne créent pas d'argent pour la saison dite régulière du stream.
Et donc le moyen qui a été trouvé pour remédier à ça est donc le financement participatif.
Ouais, cette décision, ça a été le fruit d'une longue réflexion. Longtemps, celui-ci a été refusé par les streamers, ne voulant pas fermer la page de 6 années de gratuité. Comme l'équipe l'explique dans sa cagnotte, après 4 saisons non financées, ils ont dû revoir cette décision et revenir dessus. Le but, c'était aussi de sortir de l'aspect commercial et publicitaire amené par les opérations spéciales. Pour ne pas que le stream se laisse submerger par les marques, Game of Roll a ainsi pour objectif de continuer les créations originales.
Et est-ce que les donateurs ont été au rendez-vous du coup ?
Ouais, la collecte se terminait avant-hier et il n'y a pas eu vraiment de surprise. Au départ, Game of Roll visait un palier de 15 000 euros, mais avec plus de 5 700 contributions totales, ce palier a largement été dépassé pour atteindre les 420 709 euros. Autant dire que cette collecte a été un succès total et que les saisons de Game of Roll vont certainement reprendre de plus belle.
Moi, j'ai une question pour les auditeurs et les chroniqueurs. À quand un épisode hors série mixture jeu de rôle ?
Bah écoutez, ce serait une bonne idée en soi.
Ce serait une bonne idée. Moi, je suis un peu un joueur de jeu de rôle, je sais pas vous, mais...
Moi, je suis maître du jeu et j'ai des scénarios en stock. Hein.
Eh bah écoutez, on pourra se faire ça prochainement, pourquoi pas ?
Et bon, on pourra faire ça, parfait.
Très bonne idée pour un hors-série de mixture, en tout cas, merci Thomas. Et on finit cette chronique Monde d'Internet avec un détour par le Japon. La ville de Sapporo accueillait la semaine dernière les championnats du monde d'Apex Legends. Antonin, quelle équipe a soulevé le trophée ?
C'est l'équipe grecque GoNext qui a soulevé le trophée au terme d'une finale très longue. C'est le premier sacre pour une équipe européenne sur ce jeu, mais aussi le premier sacre pour un Français. Et oui, parce que chez GoNext, on retrouve le joueur français Kylian Brun, alias Zidane, 20 ans.
Vous avez dit que la finale avait été très longue. Comment est-ce que ça s'est passé ?
Cette longueur, elle est due au format de la compétition. En finale, les 20 équipes se retrouvent dans plusieurs matchs d'affilée jusqu'à atteindre les 50 points et ensuite gagner un match. Ces points, ils sont récupérables en tuant des ennemis ou en remportant des victoires. Sauf que dimanche, aucune équipe n'a réellement fait la différence rapidement et il a fallu aller jusqu'au 9e match pour voir GoNext s'imposer. Mais dans l'absolu, il y avait plusieurs équipes qui pouvaient être sacrées.
On passe maintenant à l'interview du jour. Nous avons la chance d'accueillir dans nos locaux Romain Marzelière. Comment ça va Romain ?
Très bien, merci. Merci de m'accueillir Alexis. Et vous, comment ça va ?
Eh bien écoutez, ça va plutôt bien. À seulement 19 ans, on peut le dire, vous êtes un étudiant pas comme les autres. Vous êtes aussi le président du cinéma associatif. Ouah, je l'ai foiré celle-là. Mais c'est pas grave.
Mais on n'est pas en direct ?
Non, on n'est pas en direct.
Ah, j'ai cru comprendre qu'on était en direct, excusez-moi.
Pas de souci.
Allez. T'as vu ? Eh, je fais des efforts. Hein.
Je vois ça. On passe maintenant à l'interview du jour. Nous avons la chance d'accueillir dans nos locaux Romain Marzelière. Comment ça va, Romain ?
Mais bonjour, bonjour. Mais ça va très, très, très bien. Ravi d'être là. Merci pour l'invitation.
À seulement 19 ans, Romain, on peut le dire, vous êtes un étudiant pas comme les autres. Vous êtes aussi le président du cinéma associatif Saint-Laurent à Blain. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu sur votre parcours ?
Quand vous dites que je suis un étudiant hors du commun, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, déjà. Je suis juste un étudiant qui a des passions particulières. Enfin, moi, l'engagement en règle générale, pardon, qu'il soit d'ordre citoyen ou associatif, est important. Il y en a, quand on a 12, 13, 14, 15 ans, c'est de jouer aux jeux vidéo, d'aller au City faire du football ou du rugby ou du basket. Moi, avec certains amis à moi, c'était pas du tout le cas. C'était le cas, enfin, cette volonté un petit peu de voir qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et cette envie de refaire le monde, parce que critiquer, c'est bien, mais derrière, se bouger, pardonnez-moi l'expression, mais se bouger pour faire les choses, c'est mieux.
D'accord, donc du coup, vous me parlez de passion, donc du coup, le cinéma, c'est une passion pour vous ?
Ah oui, voilà. Moi, j'ai grandi avec quelqu'un que je considère comme mon grand-père de cœur, Didier Benito, avec vraiment le milieu, le monde du spectacle, qui était un ventriloque, il a été directeur de camping, on a fait beaucoup de soirées cabaret, où je faisais beaucoup, je m'occupais de l'aspect technique. Moi, dans ma famille, certaines personnes travaillent aussi dans l'industrie même de production du cinéma. Donc, les plateaux de tournage, je les connais. Et donc, oui, le cinéma, en règle générale, le cinéma français notamment, oui, c'en est une... Enfin, j'ai envie de dire que j'ai grandi avec lui. Voilà, les caméras, les micros, le montage, je connais ça. Voilà, oui.
Et donc du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous êtes devenu le président de ce cinéma associatif ? Est-ce que vous étiez bénévole avant ? Comment ça s'est un peu passé dans votre parcours ?
C'est une bonne question qu'il faut que je me rappelle bien correctement. faut remonter, en fait, faut contextualiser. On a deux minutes pour que je contextualise un petit peu.
Pas de souci.
2019, j'étais au conseil municipal des jeunes. Je venais 2019, j'avais 14 ans. 2020, je prends en janvier 2020 la tête du conseil municipal, là en tant que cette fois-ci d'élu Et voilà, donc j'encadre un nouveau mandat avec cette fois-ci les jeunes. Moi, j'étais auparavant des jeunes. J'encadre des nouveaux jeunes et moi, je suis leur responsable. Et c'est moi derrière qui porte les projets aux différentes institutions, la MSA, le département ou la région. Donc, je porte ça. Et puis, on avait un projet, je crois. Donc, j'avais 15 ans. On avait un projet avec le CMJ, justement, de faire quelque chose avec le cinéma de Blain. Ça n'a pas pu se faire parce que les personnes qui étaient à la tête du cinéma à ce moment-là étaient loin d'être les plus intelligentes et les mieux placées pour être là où ils étaient. Moi, un petit peu comme j'étais vexé de ne pas réussir à faire ça, je me suis dit en contrepartie, je vais rentrer dans ce cinéma. C'est un cinéma qui est à 300 mètres de chez moi. Je suis rentré avec deux potes, Timéo et Ewen, qui étaient des potes du collège. On est rentré ensemble et on se dit, très sincèrement, on pourra aller voir des films gratos. C'était aussi un peu pour ça au tout début. Le Covid est passé par là 2 mois après. Ça a été très très compliqué. Ça a été la douche froide pour tout le monde. On s'est posé beaucoup beaucoup de questions. Faut savoir que c'était un cinéma qui avait 200 bénévoles en 2020. Le Covid a fait que on est redescendu plus qu'à 65 bénévoles. En 2021, on était à 65 bénévoles. Et là, je me suis dit, ouais, va peut-être falloir que ça urge, va peut-être falloir qu'on s'investisse un peu plus. Et donc, on est rentré dans le je suis rentré là dans le conseil d'administration du cinéma. Je me suis occupé de la partie de l'accueil. Voilà, j'étais responsable de l'accueil, c'est-à-dire que je m'occupais de tout ce qui était aspect l'accueil du client, du logiciel caisse, enfin de tout ça quoi. Et donc quand on rentre dans le conseil d'administration, après on nous confie diverses tâches, des tâches plus ou moins administratives aussi derrière. Et puis j'ai été pris d'envie par ça, et en 2023 les bénévoles m'ont poussé, je me suis présenté en tant que vice-président parce que j'étais pas d'accord au fonctionnement, enfin à la manière dont géraient le président et l'ancienne vice-présidente. Donc moi, j'étais pas d'accord. Encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas d'accord sur quelque chose, du coup on se bouge un peu et puis on prend la place et puis on dit oui, moi je suis pas d'accord parce que moi je pense qu'on peut faire comme ça. Donc j'ai été vice-président en 2023, les projets qu'on voulait faire, la manière dont moi en tout cas je le voyais, et puis comme beaucoup de bénévoles le voyaient aussi, on l'a fait, on a réussi en tout cas à apporter une autre dynamique à cette association qui commençait un petit peu à manquer de jeunesse et qui n'était pas assez péchue, si je peux faire une personnification. Et donc fin 2023, j'ai été, à la suite de la démission du président, j'ai pris la présidence et puis maintenant je suis soutenu par une personne qui ne représente pas l'association en justice et qui n'est pas référencée au CNC, mais que je considère comme ma coprésidente. Hein. Elle n'a pas tous les mêmes droits que moi, mais elle m'aide énormément. C'est Delphine qui m'aide énormément.
Alors moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit directement. Donc vous nous avez évoqué un peu les dates et surtout l'âge que vous aviez à ces différents moments. Comment un garçon de 17-18 ans arrive à s'imposer, à faire porter sa voix et surtout prendre les devants sur les choses qui ne lui plaisent pas?
Ça me fait rire que vous disiez ça parce que je crois que ça a été mon plus gros handicap. Ça n'a pas été les compétences, enfin sans prétention, ça n'a jamais été les compétences, mon handicap actuellement que j'ai rencontré, c'est vraiment mon âge, mon jeune âge qui, quand ça posait problème, c'était sur cet aspect-là que ça posait problème. Derrière, les gens croyaient en moi, les gens qui m'aimaient bien croyaient en moi, me poussaient, m'encourageaient. Puis moi, j'ai toujours eu un petit peu cette... ça peut paraître un peu de... Le mec qui a la grosse tête, mais je pense en tout cas avoir toujours eu une maturité assez importante, assez développée, assez conséquente. Quand j'avais 12-13 ans, ce qui est quand même très très jeune, le fait qu'on y repense, ça paraît complètement déraisonnable. Mais mon grand-père au camping me laissait en main les rênes entièrement de la scénographie des scènes. On avait beaucoup beaucoup de matériel, on avait des fois des artistes assez importants. On avait Patrick Sébastien, le collectif Métissé, des choses comme ça. Donc c'était quand même la soirée de la semaine. Et puis c'était un gamin de 12-13 ans derrière qui était aux commandes de la technique entière. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on dit ça, mais c'est complètement déraisonnable. Mais Moi, j'ai toujours pensé que c'était pas forcément l'âge. Et c'est toujours ce que j'ai défendu, c'est pas forcément l'âge qui est vraiment un handicap. On peut avoir 30, 40 ans et puis ne pas savoir faire les choses et ne pas avoir, en tout cas, je pense, comment dirais-je, les épaules pour. Je suis un... C'est vrai que c'est pas évident à expliquer ça, mais j'ai en tout cas pour l'instant, avec ma petite expérience que j'ai, à travers mes autres activités aussi qu'on a pu développer avec encore une fois des gens jeunes, même très jeunes, qui ont mon âge, qui même actuellement sont plus jeunes que moi, quand les personnes ont les compétences, l'âge, ça reste, c'est secondaire voire même tertiaire.
Donc en fait vous avez tout simplement compensé l'âge qui pouvait être vu comme certains par quelque chose, on va dire, enfin pour vous en tout cas, qui vous handicapait, par votre personnalité en soi.
Oui, voilà, c'est une force, c'est une manière aussi de s'exprimer. Pour l'anecdote, il y a l'IUT à Nantes qui ont fait le concours d'éloquence et le président du conseil d'administration de l'université de Nantes cette fois-ci avait déclaré juste avant le concours, la manière de parler vous aidera énormément dans la vie. Et puis je pense qu'effectivement ça en fait partie, de la manière dont on s'exprime quand on arrive à tenir derrière une assemblée de 100, 150 personnes avec des personnes qui ont plus ou moins de poids dans la vie politique française, que ce soit un maire, que ce soit un président de département, un président de région, ou même des gens qui ont des responsabilités dans des productions de cinéma, et qu'on arrive à les tenir, à les captiver, ou même voir pour certains les impressionner. Oui, c'est, je pense que derrière aussi la manière de s'exprimer joue énormément.
Vous avez maintenant un certain rôle dans la gestion, mais vous êtes aussi sur la création. Vous avez créé avec deux de vos amis, je crois, un festival de courts-métrages. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de cette expérience ? Comment ça vous est venu à l'esprit et comment vous avez organisé tout ça ?
Ça s'est fait. Donc moi, en parallèle du cinéma, moi, j'ai toujours eu cette vocation de production de vidéos que je réalise, que je produis aussi avec des amis qui sont jeunes aussi. Et en l'occurrence, c'était Jérémy et Eleni, Jérémy Toisy et Eleni Roland, qui sont deux grands amis, qui un jour m'avaient dit nous on a envie de monter un projet, mais on ne sait pas quoi monter du tout, mais on a envie juste de monter un projet. Au début, c'était une bêtise parce que c'était pour les dossiers, pour bien faire. Et puis, moi, au début, très peu emballé par l'idée, on va être franc, oui, si c'est juste par opportunisme, ça ne sert à rien. Puis, derrière, en fait, ça... Moi, j'ai avancé de mon côté, etc. Puis je travaillais beaucoup sur l'aspect de production, mais très peu sur l'aspect d'exploitation, en fait. Et c'était moi, un petit peu même personnellement, dans mes deux autres activités, c'est un petit peu ce qui m'handicapait aussi. Et en fait, je connaissais pas très bien, à part la gestion du cinéma, mais sinon là, je connaissais pas très bien l'exploitation, comment on fonctionnait, comment on arrivait à se démarquer, comment on faisait quand on produisait quelque chose, une vidéo ou quoi, comment on arrivait des fois à la mettre un peu plus en avant. Et puis je me suis dit... Oui, pourquoi pas, il faudrait peut-être essayer de plonger dedans. On en a reparlé avec Léni et Jérémy. Puis après, on a monté ce projet-là. Et puis, je dois dire que c'est un beau... Avec les moyens qu'on avait, avec les contacts qu'on avait, on s'en est plutôt très bien sorti. Et même, on a comme ambition de le renouveler quand le temps nous le permettra, qu'on aura un peu plus de temps. Et pourquoi pas d'unir... nos différentes activités, notamment les miennes, que ce soit le cinéma associatif, ma production de vidéos ou encore ce concours, les unir pour faire quelque chose d'encore plus important. Mais ce projet, il nous a accompagné tout le lycée pratiquement. Enfin, allez, non, j'exagère un peu, en tout cas première et terminale. Derrière, on avait même notre lycée, le lycée du Lokidi, qui nous suivait, qui nous encourageait. On avait tous nos camarades de classe, en règle générale, qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus aussi. Quand vous avez des mômes de 16-17 ans qui passent sur France 3, où c'est les journalistes qui viennent vous voir et c'est pas vous qui allez voir les journalistes, oui, je pense qu'à un moment, on s'est dit, oui, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose quand même d'assez correct.
On va prendre un peu de hauteur maintenant. On le sait, le milieu de la culture et en partie le cinéma est fortement impacté ces derniers temps, surtout sur l'aspect financier. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Est-ce que c'est compliqué la gestion d'un cinéma, surtout en ce moment, Romain ?
Tac. La gestion d'un cinéma, non, c'est pas compliqué en soi. Si vous voulez parler du cinéma de Blin, oui. Si un cinéma en règle générale aujourd'hui, si depuis le Covid, il y a une bonne gestion avec toutes les aides que les cinémas ont eues, non, c'est pas compliqué.
Et sur l'aspect financier ?
Non plus.
Non plus ? Non plus. Vous avez des charges peut-être qui peuvent être en augmentation ?
Alors à Blin, oui, mais en règle générale, non.
C'est plus compliqué pour les cinémas associatifs ?
Non. Au contraire, ce sont les cinémas associatifs qui s'en sont le mieux tirés pour l'instant depuis le Covid, en termes de fréquentation. Ce sont les multiplexes qui sont le plus à craindre. Et pourtant, financièrement, actuellement, ce sont, enfin, aucun cinéma, à part ceux qui ont été mal gérés, mais tous les cinémas, en faisant vraiment attention à ses dépenses et enfin, à ses charges en règle générale, on s'en tire bien. Voilà, je pense que vous voulez reparler après de vous parler de Blin, précisément. Non, Blin, il y a une mauvaise gestion derrière qui a fait que on vivait au-dessus de nos moyens, et forcément, quand on vit au-dessus de nos moyens et qu'on a des entrées qui sont moins conséquentes qu'il y a 5-6 ans auparavant, comme tous les cinémas, forcément, on peut pas. Enfin, à un moment, ça casse, quoi. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. On a récupéré un cinéma qui tombait en lambeaux.
Et donc, vous avez réussi à le remonter ? Ou vous êtes encore sur le chemin là pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau?
Ça sera pas moi, enfin c'est pas sous mes mandats en tout cas qu'on fera remonter un cinéma, parce que faire perdre une association 600 000 euros de trésorerie, c'est très facile. En faire gagner, c'est très 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 compliqué, surtout au vu de la conjoncture économique actuelle. Voilà, en l'espace de 6 mois, on a eu des très très grosses avancées, on a eu de la bonne fréquentation, on a eu une mobilisation de nos élus, on a eu une mobilisation de nos clients, de nos spectateurs, de l'ensemble des partenaires cinématographiques, qu'ils soient de l'ordre du distributeur ou même du Centre National des Cinématographiques et de l'Image Animée. C'est un tout derrière et qui va fait qu'on, oui, pour l'instant, commence au fur et à mesure à sortir la tête de l'eau. Et puis là, on reparle un petit peu des projets d'investissement, parce qu'un cinéma, il faut qu'il vive, il faut qu'il y ait des investissements, notamment immobiliers. Voilà, sur du moyen terme, le cinéma de Blin, en tout cas, pourra dégager du bénéfice.
On l'a vu aussi cette année, il y a eu de nombreux succès en France, notamment je pense à trois films qui me viennent à l'esprit, Le Comte de Monte Cristo, L'Amour Ouf et Un Petit Truc en Plus d'Artus. Est-ce que ça montre qu'il y a aussi une augmentation du taux de fréquentation dans les salles de cinéma, et est-ce que c'est aussi le cas à Blin ?
Si je puis me permettre, vous m'avez cité Le Comte de Monte Cristo, oui, mais L'Amour Ouf, on en a beaucoup entendu parler, mais n'est pas du tout l'un des films qui a le mieux fonctionné en 2024. On a plein d'autres films, notamment des films d'animation, des films Disney. On va avoir Vaiana, qui est sorti récemment. On va aussi avoir Vice Versa, Moi, Moche et Méchant, qui, eux, ce sont des films qui ont mieux fonctionné que L'Amour Ouf, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais effectivement, L'Amour Ouf aussi a bien fonctionné. Et puis oui, il faut dire que 2024 est une grande surprise, cinématographiquement parlant. Comment dirais-je, le CNC a sorti les chiffres, c'est plus de 180 millions de spectateurs dans les salles en France sur l'année 2024. Ça a été le mois d'octobre 2024 a été le meilleur mois enregistré depuis le post-Covid, donc la reprise Covid. Oui, les gens reviennent, et à Blin aussi, on le voit avec une augmentation de notre fréquentation qui a été plus importante en 2024, effectivement.
Et c'est de bon augure pour la suite ?
Ah oui, bien sûr, nous, notre objectif, c'est de revenir sur les fréquentations qu'on faisait il y a une dizaine d'années, et puis on en est plutôt bien parti.
Pour clôturer cet échange, Romain, est-ce que vous pouvez nous livrer une anecdote que vous avez vécue depuis votre présidence, ou alors depuis vos débuts dans l'associatif ?
C'est pas facile, ça. Comme et comme ça, sur le moment, une anecdote. Je sais pas, une anecdote sur quel aspect, sur quoi, enfin sur au cinéma, enfin sur quoi.
Sur tout ce que vous avez envie de nous livrer, si vous avez un moment drôle ou cocasse qui vous est arrivé, ou alors un moment que vous avez envie de partager avec nous.
Des moments cocasses, il y en a plein quand on est à l'accueil et qu'on sait pas si la personne est de genre féminine ou masculine, et qu'on se trompe et qu'on dit madame bonjour, et puis en fait c'est un monsieur, et puis après on essaye de sortir une phrase, et puis on s'enfonce. Voilà, c'est des petites situations cocasses, mais ça c'est moi dans la caricature, il n'y a pas qu'au cinéma. Je suis capable de faire des boulettes comme ça, de mettre les deux pieds dans le plat. Situation cocasse, sinon, si là, récemment, en plein hiver, on s'est retrouvé pendant une semaine sans chauffage. voilà, il faisait 8 degrés dans la salle. Donc voilà, c'était un truc qui est tout neuf et puis qui tombe en panne pendant une semaine, pas de chauffage. Voilà, on passe pour des abrutis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cet été, personnellement, avec un bénévole, on s'est vu se tuer sur les toits. On était monté sur les toits pour déboucher des gouttières de manière très artisanale, pas attachée du tout. Et puis, on a marché au mauvais endroit et puis on s'est vu glisser et puis on s'est vu tomber de 10 mètres, quoi. Mais voilà, il y a eu ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Bah, je pense qu'on est pas mal.
Voilà, sur plein de petites anecdotes comme ça. Moi, ça me fait rire personnellement, mais. On a refait beaucoup de peintures au cinéma ces derniers mois. Puis c'était très 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 gros pot de peinture. Et puis avec des rouleaux, on avait nos gros pots et puis on peignait. Puis on plusieurs à peindre. Puis on parlait. Et puis en parlant, j'ai mis mon pied dans un seau entier de peinture. Le pot était bousillé, c'est une chose. Mais puis après, on a bien rigolé pour la suite. Oui, effectivement. Voilà.
Merci beaucoup Romain d'avoir accepté notre invitation.
Mais merci à vous, cher Alexis. Bon courage pour cette belle émission.
Merci beaucoup Romain.
Merci Alexis.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Notre émission est à retrouver chaque semaine sur le site internet adn-actu.fr. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour refaire le point sur la culture. D'ici là, portez-vous bien.